Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec le pôle entreprise du groupe Jandot. À travers une approche de proximité, le pôle entreprise du groupe Jandot vous garantit des solutions sur mesure, des services optimisés, de la flexibilité et une relation privilégiée. Rendez-vous à l'aérodrome de Magenta.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. L'intelligence artificielle fait son irruption dans de nombreux domaines, y compris évidemment au sein des entreprises où elle crée des opportunités mais aussi sans doute des contraintes. C'est ce que nous allons voir dans cette émission avec les cinq invités qui sont avec nous. Claire Nebeau qui est fondatrice de l'application Glozy, Stéphane Yoto qui est vice-président de la CCI, Éric Olivier consultant en formation digitale, Atem Bellagi, le patron de Scasi, également président d'honneur du cluster OpenNC et enfin Edurne Terrones-Henriquez qui est formatrice à la CCI spécialisée en innovation et en intelligence artificielle. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Voilà, un plateau d'experts en quelque sorte pour évoquer ce sujet dont on parle de plus en plus, l'intelligence artificielle. On sait qu'elle envahit à peu près tous les secteurs. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui qu'elle est de plus en plus présente aussi au sein des entreprises? Est-ce que vous pouvez le constater notamment auprès des adhérents de la CCI, Stéphane Yoto?
Alors, je commence, merci.
Ah oui, c'est vous qui commencez, oui.
Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, au-delà de la CCI, on est tous entrepreneurs et on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, l'IA est présente partout, que ce soit au sein de nos structures pour gagner du temps, améliorer nos process, nous aider dans nos réflexions. Et puis, au-delà de ça, dans les interactions qu'on va avoir de plus en plus souvent, il y aura de l'IA.
Il y aura de l'IA dans de très nombreux domaines. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir dans quel domaine l'IA va pouvoir vraiment servir au sein des entreprises. Il existe des choses, mais ça pourrait se développer encore dans les années qui viennent, évidemment.
Je pense qu'on est sur un terrain qui est archi-mobile. Et même dans 12 mois, on a du mal à prédire ce qui va se passer. Hier, j'intervenais dans des classes chez des terminales STMG, donc qui se destinent à des métiers du chiffre. Et je leur disais... Si vous n'avez pas l'IA, vous n'aurez pas de métier.
Claire Nebeau, on va prendre un exemple pour rentrer dans le vif du sujet, puisque vous avez créé une application grâce à l'intelligence artificielle. C'était pas vraiment votre secteur, mais si vous n'aviez pas eu l'aide de l'intelligence artificielle, vous n'auriez pas pu créer votre application?
Absolument pas, non. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, si on sait bien l'utiliser, on peut absolument tout faire avec. On a beaucoup moins besoin, du coup, malheureusement, quelque part, de l'humain pour un tas de choses. Donc, il faut savoir l'utiliser. Si on lui demande juste comme ça, vas-y, fais-moi ça, ça ne va pas marcher. Mais si on sait le faire, franchement, on peut aller à la conquête du monde aujourd'hui, je pense.
Alors aujourd'hui, votre application hein, Glozy, qui est, si j'ai bien compris, une application pour ce qu'on appelle le skincare, hein, c'est-à-dire la programmation des soins de la peau, c'est ça?
C'est ça.
L'intelligence artificielle a représenté quelle part dans la création de cette application?
Alors, l'intelligence artificielle m'a permis d'apprendre énormément de choses. Elle m'a guidée dans énormément de domaines pour pouvoir mettre en place l'application. Donc je dirais qu'elle m'a aidé peut-être entre 70 et 80% pour la création. Et aujourd'hui, mon application fonctionne grâce à l'application artificielle. Elle est à l'intérieur aussi.
Alors, on va évidemment, parce que ça va être le cœur de cette émission, voir quelles sont les chances et les risques hein, de l'irruption de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. On en a déjà évoqué quelques-unes, hein, c'est-à-dire que ça remplace aussi le travail qui pourrait être fait par d'autres. Il y a aussi sans doute des problèmes de vérification. Est-ce que ça veut dire, vous qui êtes spécialiste de la question, Edurne Terrones-Henriquez, qu'il faut apprendre finalement à manipuler l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise? Il ne faut pas s'y jeter à corps perdu, il faut vraiment mettre aussi des garde-fous?
Tout à fait. Je pense que c'est très important que chaque personne commence à devenir beaucoup plus consciente des limites et des forces de l'intelligence artificielle, savoir comment l'utiliser, savoir comment diminuer les risques, mais surtout par rapport à la question du travail, comment le travail il va évoluer et comment moi, en tant qu'humain, je vais travailler avec l'intelligence artificielle.
Alors comment faire pour gérer tout ça? Parce que ça amène à un certain nombre de questions, enfin de très très nombreuses questions, Éric Olivier, ce que vient de dire Edurne Terrones-Henriquez, c'est que c'est tellement vaste que les chefs d'entreprise peuvent être perdus face à ça.
Ben effectivement, alors pour rejoindre les propositions de Stéphane pour la CCI, en fait il y a deux approches pour l'intelligence artificielle. Il y a soit une approche métier, effectivement, où on va se dire est-ce que tel secteur est en charge et en capacité pardon, de prendre en main l'intelligence artificielle et de la mettre à son service. Et puis on va avoir des approches par fonctionnalité. Je vais prendre un exemple très simple, qu'on soit dans une entreprise de transport logistique, qu'on soit dans une entreprise de médias ou autre, la gestion des mails reste commune comme fonctionnalité, comme activité qui peut être dirigée avec l'IA. Sur cette base très simple des mails, on va avoir une vigilance. Pourquoi ? Parce que si c'est pour systématiser des mails automatiques qui ne parlent à personne, l'intelligence artificielle va être contre-productive. Par contre, si je me forme à l'intelligence artificielle, si j'analyse mes process internes et que je sais sur quelle fonctionnalité je vais pouvoir venir greffer des outils, en personnalisant ces outils à chaque structure, chaque métier, là, je vais pouvoir gagner en efficacité. Alors peut-être avec ce pendant de réduire un peu d'effectifs, mais gagner en productivité assurément. Et je donne un chiffre à titre indicatif, même dans une entreprise logistique, pour avoir formé des personnes qui sont dans la collaboration, elles ont gagné 80% de temps sur leur traitement de mail. 80% de temps, quand je suis dans la collaboration administrative, c'est du temps que je peux mettre sur d'autres activités plus en lien avec ce qu'on appelle la chaîne de valeur, et donc augmenter quelque part la valorisation qu'amène l'entreprise dans ses actions.
Donc le gain de temps est l'un des bénéfices de l'intelligence artificielle au sein d'une entreprise.
Ah mais c'est un gain de temps, ça peut être une source d'économie massive même, hein, on peut le dire. Alors, en ces temps difficiles en termes d'emploi, ne négligeons pas ce qui a déjà été dit. Si je me forme aux outils d'intelligence artificielle, je vais gagner en perspicacité, je vais gagner en efficacité, puis je vais gagner en employabilité. Mmh. Et ça, c'est le nerf de la guerre à date, qu'on soit étudiant, demandeur d'emploi, ou pourquoi pas en reconversion professionnelle. Et on sait qu'il y a eu de nombreuses reconversions, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans des démarches de projets, après notamment la période Covid ou après 2024 ici.
On va évidemment revenir sur ces questions-là. Atem Belhaji, l'intelligence artificielle, vous en servez déjà dans vos multiples activités. C'est devenu un outil alors qui nécessite vraiment la formation du personnel, ou c'est des choses qui sont pour l'instant assez intuitives ?
Alors, l'IA nous submerge, c'est un beau terme, hein, parce qu'elle arrive rapidement avec des vagues successives de plus en plus presque importantes. Et il faut savoir faire le tri et trouver notre place dans ce changement, parce qu'il y a des métiers qui sont en train de changer et qui ont changé, il y a des replacements. Moi, personnellement, je crois que l'humain reste dans la boucle, hein, humain de loop, et reste dans la boucle. Par contre, il y a des métiers qu'il faut changer, et puis il faut gérer l'augmentation de capacité de faire, l'amélioration de la productivité avec, selon les secteurs, des approches qui peuvent être variées, quoi. Sur notre secteur, dans le digital, dans le numérique, on l'utilise sur nos métiers. On développe aujourd'hui plus vite, on améliore la qualité, on intègre l'IA dans les fonctionnalités, dans ce qu'on fait. Sur tous les sujets, hein, on traite beaucoup de sujets. Une entreprise calédonienne doit, en tout cas dans notre positionnement, gérer énormément de sujets dans le digital. Et dans tous les sujets, on a des approches par produit et par service. Également dans nos fonctions support, ça change la donne. Ça a une chance pour les entreprises calédoniennes qui sont en général de petite taille, parce que ça nous ramène de l'expertise qui des fois n'est pas accessible. C'est une chance pour la Calédonie d'une façon générale, pour l'administration. Un des problèmes qu'on a d'ailleurs dans le transfert des compétences, une incapacité de gérer les compétences, mais complète. On est largué sur énormément de sujets. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on aura la capacité de faire comme font des pays développés et forts, mais en tout cas on peut rattraper un certain retard. Et il sera salutaire, surtout pas en ce moment. Mais le sujet, il est global, il n'est pas vrai partout. Il faut savoir l'utiliser. L'IA peut se tromper, peut nous amener aussi dans l'erreur. Des fois, chercher l'IA et passer du temps, on a eu des cas d'utilisation, on perdait plus de temps à utiliser l'IA qu'à faire les choses. Et c'est vraiment à faire le tri, être bien formé, déterminer quels sont les modèles qui fonctionnent et comment industrialiser cette approche.
On va parler à la fois aussi des formations, hein, qui sont mises en place, parce que justement les différentes structures s'organisent pour aider les entrepreneurs à appréhender cet outil. Stéphane Yotto, Atem Belhaji l'a dit, la plupart des entreprises en Calédonie sont des entreprises de petite taille. Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'intelligence artificielle peut intervenir ?
Ah, totalement. Moi, je suis propriétaire d'une menuiserie industrielle et je passe énormément de temps à répondre aux appels d'offres publiques. J'ai divisé par 3 le temps de réponse en utilisant les outils. Et ce qui est bien avec ces outils, c'est qu'en fait, on peut demander à l'outil de nous expliquer comment utiliser l'outil. Mmh. C'est-à-dire que sur une IA que tout le monde connaît qui s'appelle Claude, on peut monter des projets, et donc on va demander à Claude de nous expliquer, on va lui dire voilà ce que j'aimerais faire, donne-moi une stratégie, et puis explique-moi comment je vais faire pas à pas, parce que je suis pas sachant. Ce que, en disant ça, je veux surtout pas dire qu'il faut pas se former, il faut absolument se former, mais aujourd'hui, même des petits entrepreneurs, même des artisans, peuvent se faire aider sur la facturation, sur le suivi client, sur faire des devis. Les artisans perdent un temps fou à faire des devis. Aujourd'hui, l'IA peut aider de manière significative.
Claire Nebeau, vous êtes un exemple de ce que vient de dire Stéphane Yoto. Est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour savoir comment utiliser l'intelligence artificielle ? Et est-ce que, s'il n'y avait pas eu l'intelligence artificielle, vous auriez dû faire appel à un certain nombre de collaborateurs ou d'experts pour vous aider à monter votre projet ? Alors, et du coup, est-ce que vous l'auriez fait ?
Alors, pour la première question, oui. J'utilise plutôt ChatGPT avec Claude. ChatGPT, je lui dis, bah voilà, je voudrais montrer ça parce que comme il est un peu plus créatif pour justement des questions de développement ou ce genre de choses, bah voilà, il va après me sortir les prompts que je dois donner à Claude et Claude en fait va coder. Tout mon site web, par exemple, a été fait par Claude. J'ai payé zéro pour faire ça, enfin de mon temps quoi, c'est tout. J'ai codé tout mon logiciel de facturation aussi, entre ChatGPT et Claude. Donc mes factures partent toutes seules, mes partenaires sont tout liés avec une base de données, mais tout part tout seul. Et ça a été tout construit par Claude. Et je peux encore l'améliorer. Et c'est ChatGPT qui a dit, donne ça à Claude, je vérifie les fichiers, attends, celui-là ne va pas, il faut qu'il modifie ça comme ça, donne-lui ce prompt-là. Enfin, incroyable, quoi. Moi, j'aurais pas pu faire le dixième du quart de la moitié toute seule s'il n'y avait pas eu ça.
Et donc, vous n'auriez pas fait votre projet, du coup, parce qu'il aurait fallu vous attacher les services de personnes extérieures ?
Exactement. Ça m'aurait coûté pas du tout le même prix, pas du tout le même montant. Et là, pour le coup, je pense vraiment que j'aurais pas eu les moyens, en fait, tout simplement, de le faire. Ou alors, il aurait fallu que j'apprenne beaucoup plus de choses différemment. Et le projet, j'aurais peut-être mis, je sais pas, 7 ans, 8 ans à le faire au lieu d'un an et demi, quoi.
Éric Olivier ?
Oui, alors pour préciser, le prompt, c'est la consigne ou la demande qu'on réalise auprès de l'IA. Une des limites d'ailleurs qu'on va avoir...
Oui, parce que tout ça introduit aussi un nouveau langage, bien évidemment.
Le prompt, ça vient tout simplement du prompteur qu'on a dans les médias, puisqu'en fait l'IA ne fait que vraiment appliquer ce qu'on va lui dire avec précision. Il faut considérer les outils IA un peu comme des enfants, pour ceux qui en ont, ou des Pokémon pour ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que si on ne lui dit pas le chaud c'est chaud ou le froid c'est froid, elle n'a pas la sensation. Je simplifie l'idée. Par contre, il y a deux effets à ne pas négliger, et c'est d'autant plus important de se former. Il y a ce qu'on appelle l'effet Google. Donc avec Google, notre cerveau reptilien nous dit, si l'information est disponible sur Google, ne t'embête pas à la retenir. Donc on peut générer un appauvrissement de la mémoire. C'est très important pour nos étudiants et pour les professionnels eux-mêmes. L'effet direct avec l'IA, c'est la même chose, mais pas sur la mémoire, sur le raisonnement. Donc si par contre je ne suis pas formé à bien construire un prompt, comme c'était précisé par M. Belladji, je vais passer des heures à faire un prompt pour un résultat de fourmi, très anecdotique. Si je ne sais pas quelles sont les limites dans les biais qu'il va y avoir avec l'IA, parce que certaines IA, on a évoqué Claude, ChatGPT, on pourrait évoquer DeepSeek par exemple, qui est d'origine chinoise, on n'a pas les mêmes résultats non plus dans ce qui va nous être proposé, que ce soit en idée, que ce soit en borne. Je prends un exemple très simple. Si je demande à ChatGPT, Claude, est-ce que Taïwan fait partie de la Chine ? Non. Taïwan est un territoire indépendant. Si je demande à DeepSeek, oui, la Chine est une et indivisible. Donc déjà, sur cet exemple très illustratif, on voit bien que si je ne me forme pas, je vais tomber dans des travers. Et avec en plus, parfois, une impression de connaître les outils d'intelligence artificielle, puisqu'on a quand même la chance, justement, et Nora qui intervient, par exemple, à l'EGC, on a Guillaume Arène, notre responsable de Pôle Formation, qui a fait une matinale à la CCI, qui a eu un grand succès, je crois, ça a rempli l'auditorium quasiment à tout rompre, pour le dire comme ça. Par contre, j'ai l'impression de connaître l'IA, mais c'est pas pour autant que je suis en mesure de l'utiliser. N'oublions pas aussi qu'on a eu cet effet également avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont en place depuis 20 ans. On commence à peine à les réguler, à les réglementer en termes d'interdiction au moins de 15 ans. Avec l'IA, il faut savoir que c'est l'adoption humaine de technologie la plus rapide de l'histoire de l'humanité. Donc si vous ne vous y mettez pas dès maintenant, vous êtes déjà en retard en vous y mettant aujourd'hui, mais vous serez encore plus en retard en vous y mettant demain.
Alors, Terones Henriquez, on a évoqué ce recours à l'intelligence artificielle et on l'a dit, il existe plusieurs sortes d'intelligence artificielle. Est-ce que la première formation à avoir, finalement, c'est la connaissance de l'outil en tant que tel pour savoir avec laquelle on va travailler ou avec laquelle on va faire référence ?
Tout à fait. Chaque fois que j'ai mes formations et je parle avec les leaders, les gérants, les chefs d'entreprise, j'explique. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi tu vas le faire. Si tu comprends qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi tu vas le faire, là, on peut commencer à chercher les outils nécessaires pour toi. Donc, c'est pas la même chose si tu veux faire quelque chose de plus créatif ou si tu veux faire quelque chose plus de codage ou si tu veux analyser, par exemple, tes données et créer un tableau de bord interactif. Donc, c'est très important savoir par Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux le faire? Et te former, parce que si tu ne te formes pas, tu vas rester dans la superficie. En fait, tu vas arriver à faire des choses, tu vas pouvoir voir des vidéos de YouTube, pouvoir comprendre plus ou moins qu'est-ce qu'est faire, mais ça va être toujours un peu partout. Si tu prends l'information, tu vas pouvoir aller dans la partie supérieure, développer plus rapidement tes compétences, parler avec plusieurs personnes et travailler et apprendre en collaborative. Et donc ça, c'est pour moi les choses les plus importantes, de prendre l'information un peu plus formelle, on va dire. Mmh.
Stéphanie Otto ?
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Éric Olivier. Sur la régulation, alors pas la régulation en tant que telle, mais sur le fait qu'en fait, de plus en plus de collaborateurs dans nos entreprises utilisent ce qu'on appelle le shadow AI, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur propre ChatGPT avec des données de l'entreprise. Et très 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 rapidement, je conseille à l'ensemble des entreprises d'avoir une
autorité de régulation de l'utilisation de l'IA.
Une charte d'utilisation de l'IA. Qui peut être très souple, mais on le sait, l'IA prend toute l'information que vous lui donnez pour se nourrir, et de temps en temps, elle peut la régurgiter à droite, à gauche, si vous savez bien la chercher. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une charte claire en entreprise sur l'utilisation de l'IA. Je voulais juste rebondir là-dessus.
Mmh. Oui, Éric Olivier.
Effectivement, pour intervenir dans de nombreux secteurs d'entreprise, que ce soit alors ce qu'on appelle des formations intra-entreprise, c'est une formation dédiée à une entreprise, ou inter-entreprise, on reçoit plusieurs personnes d'entreprises différentes. On a effectivement des usages personnels qui sont reversés, comme ça vient d'être dit, dans le monde professionnel, avec le compte personnel des fois du salarié, de l'usager, de l'agent, et donc avec des risques effectivement de mauvais usages. Un gérant de société doit mettre ses limites, mais encore faut-il que lui soit formé, avec, n'oublions pas, une difficulté quand même en Calédonie, c'est que les gérants de société, pour se former, doivent vraiment payer de leur poche, dans la version très courte. Et pour les salariés, n'oublions pas que le FIAF existe, c'est quand même très important. Rappelons que chaque entreprise de 10 salariés, je fais très court, mais à peu près une enveloppe de 400 000 francs pour se former par an, utilisez-la à bon escient. Et n'attendez pas la fin d'année où ça se bouscule dans les centres de formation pour dépenser son enveloppe FIAF, réservez, entre guillemets, vos places dès maintenant. Deuxième point non négligeable, c'est dans cette perfusion entre l'univers personnel et professionnel, on a encore une fois l'impression de connaître l'IA, c'est ce que je disais. Nous, on le voit, on a ouvert par exemple des formations inter-entreprises sur 2 jours, et en fait, on voit que ça a du succès. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, en une journée, je vais juste entendre ce que je pense déjà savoir, à défaut que ce soit déjà avéré, que vous le sachiez vraiment. Et là, on peut commencer à aller beaucoup plus loin, gratter par exemple sur quel est votre métier à vous, au sein de quel secteur d'activité. Et donc, on finit ce type de formation avec un petit guideline, par exemple, de fiches métiers. Par exemple, ton métier appliqué dans ton secteur en Nouvelle-Calédonie, dans telle province, et tu ressors avec une liste d'outils IA que tu vas pouvoir prendre en main petit à petit, parce qu'on ne peut pas manger un éléphant en une seule bouchée, on le mange bouchée par bouchée.
Atem Belagi, est-ce que justement cette irruption de l'intelligence artificielle au sein des entreprises oblige justement alors soit à mettre des chartes, comme le disait Stéphanie Otto, soit en tout cas à encadrer la pratique au sein d'une entreprise auprès de ses salariés? Est-ce que vous rencontrez parfois des difficultés parce que ça part un peu dans tous les sens, si je comprends bien? Ça peut partir dans tous les sens.
Ça part dans tous les sens.
C'est clair, ça part dans tous les sens.
L'évolution de l'IA, ça part dans tous les sens.
Et oui, nous, parce que le monde de l'IA évolue aussi lui-même très très rapidement.
C'est énorme. Enfin, on voit quasiment, tous les mois, ça se bouscule et ça change. Des fois, des changements radicaux. Même d'ailleurs, dans l'impact dans l'entreprise, c'est un outil impactant, clair. C'est pas de sujet. Et on est partagé entre de faire de la veille et perdre du temps à faire de la veille et nos besoins d'industrialisation rapide. Moi, lorsque j'ai d'ailleurs, pas qu'en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à Tahiti, on a 70 personnes qui développent tous les jours. L'impact, il est énorme. Si je gagne 1%, 2% de productivité par mois, ça se ressent dans la capacité de produire, ça se ressent dans les coûts et dans l'ensemble. Donc le sujet, il est super important. La charte est super importante. L'industrialisation, elle est super importante. La veille est super importante. Il faut se retrouver dans l'ensemble. Et il y a une petite précision qui concerne le monde du digital. L'IA fait beaucoup, fait pas tout. Il y a un aspect des fois de miracle, mais il n'est pas vrai partout. Voilà, on est à la course des fois de la meilleure IA pour chercher aussi les meilleures opportunités, et des fois on s'y perd aussi, mais ça reste quand même globalement une chance incroyable pour, je le rappelle, pour les petits, certainement pour les grands, mais pour les petits. Mmh. Nous, dans ce qu'on fait, on fait des développements du logiciel, l'IA nous fait des pas énormes, parce que le monde, il est ouvert, le monde du logiciel est ouvert. Ce qu'on remarque, au-delà des annonces fortes, des annonces, je dirais, fracassantes, ce qui a une réalité, c'est que les gros logiciels, le monde du logiciel, qui sont des vieux logiciels, ils ont clairement des choses à faire, parce que là, il y a une vraie risque. Là où ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui n'ont pas la capitalisation, l'historique qu'ont les autres, peuvent traverser très vite. Et là, il y a des changements de paradigme qu'il faut savoir aussi saisir l'opportunité pour nous placer en tant que territoire. Les premiers qui se placent avec cette vitesse-là, potentiellement, ont plus de chances.
Donc l'IA, évidemment, crée beaucoup d'opportunités pour les entreprises. On l'a vu. Est-ce qu'il faut, à l'intérieur des entreprises qui ont recours à l'IA pour un certain nombre d'actions ou de mise en œuvre de projets, est-ce qu'il y a besoin de contrôler ce que fait l'IA ? Est-ce qu'il faut mettre du contrôle ou est-ce qu'on lui fait totalement confiance en disant, finalement, elle a toutes les données, elle sait ce qu'elle fait, donc laissons partir les choses. Claire Nebeau pour commencer et Stéphanie Otto après.
Oui, alors clairement pour moi, oui, il faut contrôler ce que fait l'IA. Là, il n'y a absolument aucun doute. Déjà, quand on a des échanges avec elle, au bout d'un moment, elle peut complètement partir dans tous les sens. C'est un peu à nous aussi de la cadrer. Effectivement, là, l'image de l'enfant est très bien, quoi. Il perd la concentration, elle part ailleurs, et on se retrouve sur la Lune alors qu'on voulait juste à la base un site web, quoi. On ne sait pas à quel moment, voilà.
Après, moment ça a dérapé.
Ouais, voilà, on ne sait pas trop, mais ça a dérapé. Et puis, le deuxième problème, c'est que, par exemple, pour les créations de sites web ou de ce genre de choses, on peut avoir des problèmes de sécurité auxquels, moi, par exemple, qui n'y connais pas grand-chose, je ne vais pas le voir. Je ne vais absolument pas penser à aucun moment à dire « vérifie que mon truc ne puisse pas être piraté ». Et l'IA, du coup, ne va pas le faire.
Elle ne fait que ce qu'on lui demande.
C'est ça, mais c'est là que quelqu'un qui connaît est hyper important, donc un développeur, là pour le coup, qui va pouvoir dire il manque ça, quoi.
Stéphane Yoto.
Alors oui, le contrôle est absolument essentiel. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Alors moi, je vais le dire avec mes mots et je suis sûr que Eric Olivier le redira mieux. Mais l'IA, elle a envie de vous répondre. Donc si elle ne sait pas, elle invente. De l'IA, en fait...
Oui, il faut qu'elle donne quelque chose, de toute façon.
On a l'impression que l'IA, c'est de l'intelligence, parce qu'il y a le mot intelligence. Il n'y a pas d'intelligence. On est sur des réponses qui sont dites probabilistes. Quelle est la probabilité que cette réponse-là soit la meilleure par rapport à une question donnée ? Je donne un exemple très bête. Vous allez demander à l'IA, question ouverte, quelle est la couleur du ciel ? L'IA va vous dire, elle est bleue. Pourquoi elle va vous dire bleue ? Parce que dans 60% des références qu'elle a dans ses données, le ciel est souvent bleu. Mais elle n'en sait rien. Elle va juste vous répondre. Si vous lui dites, je suis à Nouméa, il est midi, il n'y a pas de nuages, il y a un beau soleil, quelle est la couleur du ciel ? Et là, avec 99% de probabilité, l'IA va vous dire, le ciel est bleu. Mais là, il y a des bonnes chances que ce soit la bonne réponse. Donc, il faut faire très, très attention. Ne pas se dire que c'est de l'intelligence, c'est de la probabilité. Et bien sûr, il faut
contrôler. Ce n'est que l'utilisation d'une super base de données, en quelque sorte. Un peu, de façon un peu réducteur. Eric Olivier.
Pour rebondir dans une version simple, mais avant, je veux intercaler ce qui a été souligné indirectement, c'est l'expertise métier. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas électricien. Donc par contre, si un électricien, un médecin demande une formation à l'IA, son expertise est tout aussi importante que la mienne en tant que formateur numérique et digital. Pourquoi ? Parce que par rapport à ce qui vient d'être dit, s'il y a une erreur, c'est bien le médecin qui va porter la responsabilité d'un diagnostic, c'est bien l'électricien qui va s'électrocuter s'il fait une fausse manipulation. Je pousse le trait. Maintenant, pour repréciser le propos de Stéphane, d'une manière très simple, c'est comme quand vous utilisez votre messagerie. WhatsApp, Messenger, SMS. Si vous commencez par « je », ensuite, vous appuyez à chaque fois sur le mot qui apparaît au milieu de votre téléphone. Ça va vous faire une phrase qui est cohérente, qui ne veut peut-être pas dire ce que vous vouliez dire, mais qui est complètement cohérente. Et c'est ce principe de probabilité que Stéphane décrit très bien, d'ailleurs, sans avoir besoin que j'y repasse, mais c'est l'illustration.
Chacun ses mots.
L'illustration permet peut-être de vraiment voir ce que ça peut donner, parce qu'on peut tous tester sur notre smartphone. Ça, c'est très important. Donc, je rappelle que l'expertise métier en amont, elle est indispensable, que c'est vous le verrou de vos usages de l'IA, qu'il y ait une consigne éthique ou pas donnée, qu'il y ait un cadre réglementaire ou pas à appliquer. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, votre expertise métier, quand on est en formation, est tout aussi importante que l'expertise du formateur qui vous accompagne, pour éviter également des dérives. je ne vais pas reprendre l'exemple de DeepSeek, mais on a d'énormément de choses, et on appelle même, dans certains cas, des hallucinations de l'IA, puisqu'elle a besoin de faire du lien. Elle peut avoir deux blocs d'infos vrais et nous mettre au milieu un lien qui n'a aucun rapport et qui vous sera complètement inutile, voire contre-productif.
Atem Belagi ?
Alors, deux sujets rapidement. C'est un outil, hein, un marteau, si on utilise mal, on se fait mal, hein, pour donner d'autres images, parce que chacun... et c'est des images fortes.
Oui, mais enfin, le marteau ne s'utilise pas tout seul.
Voilà, ne s'utilise pas tout seul. Donc, il y a l'humain qui doit être maître, et ça augmente la capacité d'une main, des fois qui peut ne pas y arriver, mais ça augmente la capacité. Donc, c'est un outil, c'est impactant. En ce qui concerne l'entreprise, il y a des recherches de productivité qui sont simples. On peut aller chercher facilement, les études donnent 20, 30, 40% sur un certain nombre de tâches. Donc c'est impactant, il faut le chercher rapidement. La Corée du Sud a généralisé et a offert l'utilisation de l'IA à toute la population. Hein. Il faut être tranchant, il y a des sujets, il y a de l'impact. Et bien entendu, former les gens pour qu'ils l'utilisent correctement. Et après, lorsqu'on va un peu plus loin, plus il y a de la profondeur, de la complexité, plus l'IA devient... difficilement à une pénétration forte. Nous, on le voit dans le domaine des gens spécialistes dans le développement. Alors, ça ne remplace pas forcément le développeur junior, ça peut même l'augmenter, mais ça réduit les besoins globaux de nombre de personnes. Ça, c'est vrai. Par contre, on a des développeurs juniors qui ont amené aussi leur façon de faire et qui ont permis de faire évoluer tout le monde. Par contre, lorsqu'on rentre dans des sujets très, très complexes, même des seniors qui sont essentiels à l'IA étaient obligatoires doivent passer parce que l'IA n'arrive pas à faire ce qu'elle fait. Alors peut-être que ça va changer, peut-être pas, mais je pense que il y aura une évolution, il faut voir jusqu'où elle peut passer. Et juste pour rappeler un domaine rapide, c'est qu'on dit à la base, il y a beaucoup de fracassants dans l'histoire, on le voit partout dans les chaînes, enfin YouTube et autres, dans les podcasts. La réalité, elle est un petit peu différente. Il y a des tendances, ça ne va pas tout fracasser, c'est impactant. Et après, il faut savoir comment l'utiliser correctement.
On va en parler de tout ça et des changements que ça induit dans les entreprises. Avant, Edurne Terrones, Enriquez, cette question du contrôle, ça fait partie des formations c'est des points importants sur lesquels vous insistez pendant les formations que vous dispensez ?
Tout à fait. Je pense que, pour complémenter, en fait, parce que vous savez parler de tout ça, mais c'est aussi la qualité des données et la sensibilité des données. Donc, il va y avoir des données qui vont être beaucoup plus sensibles. Et en tant que métier et en tant que personne responsable qu'on utilise l'IA, on doit comprendre ça. Par exemple, si c'est quelque chose de juridique, financier, si c'est quelque chose comme du médecin, tu dois faire attention et tu ne peux pas en fait, être la personne qui peut valider l'information. Donc toujours définir la sensibilité de l'information. S'il va devoir, tu vas devoir consulter à quelqu'un d'autre parce que tu ne connais pas la réponse et nettoyer les données. En fait, tu ne peux pas donner des données qui ne sont pas propres, parce que si tu les donnes des données pas propres, la sortie ne va pas être correcte. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et aussi développer ton pensée critique. En fait, pas penser qu'on doit développer des compétences technologiques, on doit développer des compétences humaines.
Alors ça, j'en reviens, et ça va être sans doute le dernier point de cette émission, mais il est assez capital. Vous êtes tous versés dans ce domaine de l'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre. Quels sont pour vous, à long terme, les changements que ça va induire au sein d'une société ? Vous l'avez dit, tout ne peut pas disparaître, mais tout se réorganise différemment. Est-ce qu'il y a des métiers qui risquent de disparaître avec l'interruption de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui réfléchir à des formations spécifiques bien en amont d'une arrivée sur le marché du travail pour que les étudiants soient formés à ces choses-là ? Enfin, comment vous voyez les évolutions et est-ce qu'il y a vraiment des métiers qui vont disparaître ou d'autres qui vont peut-être apparaître, Stéphanie Otto ?
Il y a des métiers qui vont disparaître et des nouveaux métiers qui vont apparaître. Alors, je vais avoir le contrepoint de ce que disait Atem, mais il y a à peu près un mois de ça, le patron de Mistral, qui est l'IA française la plus connue, avait été auditionné par l'Assemblée nationale. Ils sont 2000 personnes, dont 1000 ingénieurs. Il dit, dans notre société, il n'y a plus de programmeurs. On a créé le métier de superviseur d'IA, mais c'est les IA qui programment. Donc, perte d'un métier, en tout cas chez eux, programmeur, apparition d'un nouveau métier, superviseur d'IA. Moi, je suis intimement persuadé que dans les métiers du chiffre, dans les métiers du juridique, toutes les fonctions juniors vont disparaître et être remplacées par l'IA, et que par contre, les fonctions de contrôle seront d'autant plus importantes.
Éric Olivier.
Effectivement, comme c'était précisé, l'outil IA s'appuie sur de la donnée, de la data. Donc il faut qualifier cette data. Et effectivement, ça simplifie le travail de tout métier qui s'appuie sur une donnée qui est assez factuelle, assez basique. On peut prendre l'exemple de la comptabilité, par exemple. Alors attention, je ne vous dis pas de ne pas vous former à la comptabilité, mais la comptabilité, c'est très formel. Il y a un plan comptable, on alimente des numéros de compte, les contentés. Et derrière, il y a par contre le métier d'expert comptable qui restera naturellement présent. On peut comparer l'évolution au développement de l'informatique. Il y a 30 ans, on parlait de l'informaticien. Puis est arrivé Internet, on a eu le webmaster. Maintenant, regardez le nombre de métiers qu'il y a dans le numérique et l'informatique. C'est des dizaines de métiers qui vont du data analyst au data scientist, au développeur de telle technologie plutôt que d'autres, etc., etc. Donc tous les métiers vont être impactés, c'est sûr. Quand on revient sur la partie métier, il y a maintenant des plateformes, il faut en avoir conscience, parce qu'on a évoqué les IA génératives générique, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot ou que sais-je. Vous avez des plateformes au même titre que Play Store, vous avez plus de 5000 outils IA qui sont proposés avec une répartition dans une soixantaine, soixante-dizaine de fonctionnalités. Pardon. Et rien que dans le chapitre de la communication, vous avez 75 outils IA qui vous sont proposés. Donc si vous ne savez pas poser votre stratégie d'implémentation de l'IA, si vous ne savez pas, comme c'était très bien dit, ce que vous allez en faire, pourquoi vous allez le faire, ben vous risquez de perdre du temps, perdre vos effectifs, et puis pardon, peut-être perdre votre entreprise, voire dégrader la qualité de service public pour tout ce qui va être service public.
Il y a donc des risques évidemment à l'utilisation de l'IA en cas de non-formation, comme on l'a dit depuis le début de cette émission.
Complètement, et je vais reprendre un dernier exemple pour le préciser. On parle d'agents en cybersécurité pour la partie informatique numérique. On a nos fameux RSSI qui sont aussi en lien de faire le lien avec la réglementation juridique. Demain, c'est typiquement un métier qui sera, je pense, riche et très intéressant que d'être sur ce type de profil qui n'existe pas encore à date. Mais moi, j'ai envie d'inciter nos jeunes à créer les métiers de demain, parce que c'est eux qui vont connaître un peu mieux que nous les possibilités de ces développements IA, et je les invite à se les approprier. Pourquoi pas utiliser l'outil IA pour les aider à réfléchir à quel métier je peux créer, voire peut-être qu'on tombera dans ce qui avait été proposé par le président de Sigfox. Alors je replace ça, Sigfox, c'est les objets connectés, qui prévoyait, lui, que le monde de demain serait fait non plus de métiers pleins et entiers, mais de micro-tâches que chacun viendrait piocher, par exemple, parce que les compétences sont multiples, etc. Je ne dis pas qu'il a raison, je ne dis pas qu'il a tort, je dis juste que je ne sais pas.
C'est une perspective.
Et que comme personne n'a vu arriver Facebook, personne n'a vu arriver la révolution de l'IA, adoption, encore une fois, la plus rapide dans l'histoire technologique de l'humanité.
Claire Nebo, quel métier vous avez l'impression de faire aujourd'hui ? Vous êtes chef d'entreprise, puisque vous avez créé votre entreprise, mais vous êtes quoi ? Développeuse ? Vous êtes spécialiste des soins du corps ? Quel est votre métier ?
Je sais pas, couteau suisse, pour le coup. Un tas de métiers en même temps. En plus, je suis aussi dans la finance et dans le juridique. Donc là, pour le coup... Je ne sais pas trop, mais je suis extrêmement polyvalente, on va dire. Mais je pense que beaucoup de gens vont pouvoir devenir polyvalents. Et d'ailleurs, on parlait des métiers de contrôle, mais je pense aussi qu'il va y avoir des métiers de créateur, comme pour créer son métier pour demain, mais juste pour utiliser l'IA dans l'entreprise, ça veut dire qu'il faut créer des flux. Et donc là, on va avoir des... Alors, je ne sais pas si ça s'appellera créateur de flux IA, hein, mais on aura ce genre de personnes.
Edurne, Terones Enriquez, vous voyez comment l'évolution des métiers est liée justement à l'interruption de l'intelligence artificielle en entreprise ?
Je pense qu'on est en train de vivre un changement des RA. En fait, on va passer de l'ère de la productivité à l'ère de la créativité. Donc, toutes les entreprises, ils vont devoir innover. Qu'est-ce que ça veut dire ? On doit s'adapter à ce changement. On doit passer au passé, toutes les contraires. On doit prendre et travailler en intergénération. On doit profiter les anciens qui sont toutes les connaissances métiers et les jeunes qui viennent avec toutes les nouvelles idées, travailler ensemble et on va faire évoluer tous les métiers qui vont toucher la planète. Donc je pense qu'on est dans un monde de possibilités. Je suis super contente et j'espère que vraiment on va réussir à faire un monde pour tout le monde.
Ah bah oui, en plus c'est votre métier, donc autant que ça marche, Eric Olivier.
Juste pour sortir un tout petit peu de l'approche entreprise et métier, n'oublions pas que l'IA va être une chance pour chacun, particulier, pas juste pour organiser un voyage de manière parfaite et timée, mais également pour verrouiller les prestations qu'il va solliciter. Moi, je ne suis pas plombier. Si j'ai besoin qu'un plombier intervienne et qu'il essaie, pardon, de m'arnaquer sur la facture, je vais pouvoir anticiper en essayant d'avoir défini la tâche. Bah tiens, j'ai mon évier qui ne marche pas pour telle raison. Quel est le type d'action possible ? Quel est le coût à peu près que je devrais payer, et je ne vais pas le faire moi-même. Je ne vais pas pour autant devenir plombier demain, je n'aurai peut-être pas le temps. Par contre, ça va m'aider lors de la prestation à verrouiller si la prestation elle est cohérente avec ce que l'IA a pu trouver comme information sur les interventions dans la plomberie ou en mécanique ou que sais-je encore. Donc tout un chacun bénéficie déjà de l'IA dans certains outils, les conseils, préférences vidéo. Mais dans la vie personnelle, c'est aussi des approches qui vont nous enrichir pour avoir cette approche multicasquette, mais au-delà de l'entrepreneuriat, dans la vie personnelle aussi.
Donc ça transforme la société, Atem Belagi.
Ça transforme la société et l'entreprise.
Pour quand je dis la société, je ne parlais pas de l'entreprise, hein. Je parlais de la société, le groupement humain.
Ce qu'on constate effectivement, au même titre comme Israël, aujourd'hui, je n'ai plus de développeurs. Hein. Aujourd'hui, j'ai des gens qui pilotent l'IA, c'est plus qui développent, après ils contrôlent ce que fait l'IA. Et en fait, ce qui a changé, mais ça c'est vraiment sur les derniers mois, hein, c'est il y a un an avant VivaTech 2025, j'étais en train de discuter avec mes gars, il faut vraiment qu'on s'y intéresse et il faut plus attendre. Et c'était un autre usage que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les personnes promptent, en donnant un bon contexte, bien entendu, et l'IA développe. Et après, on essaie d'améliorer, d'éduquer au maximum l'IA. Ça nous donne des capacités supplémentaires. J'ai pas eu besoin de réduire. Et c'est des jeunes aussi qui participent grandement à ce qui se passe. C'est d'autres métiers qui arrivent. En fait, la jeunesse, elle est plus dans le développeur, en ce qui nous concerne, mais elle est dans l'orchestration de développement que peut faire l'IA. Il y a un changement, et c'est vrai pour les autres métiers, les métiers intellectuels. Je pense qu'il y a certains, enfin, c'est pas que je pense, on le vit déjà, ça a déjà évolué et ça va continuer à évoluer. On va voir comment suivre le mouvement, mais on est obligé d'être dedans. Le changement, c'est très très important et il attend pas, quoi. C'est vraiment tac au tac.
Éric Olivier.
Juste pour soulager dans cette approche pour les entrepreneurs notamment et les gérants d'entreprises. Donc, si vous voulez avoir des informations sur les formations, vous pouvez vous rapprocher des entreprises de formation ou du FIAF pour les salariés. Pour les gérants, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Alors, notamment quand je suis en province sud, vous avez Sud Coaching qui est disposé sur le site de la province sud, qui vous permet en tant que gérant d'entreprise de bénéficier de 5 heures de coaching en IA, en digital et d'autres thématiques. Vous n'avez qu'une heure à votre charge. Vous avez Open, la grappe des entreprises numériques, le cluster, qui propose des ateliers avec la CCI et la CMA, qui s'appelle dans un programme Numérail. J'étais ce matin à Numbo pour en animer un. J'étais hier à la FOA, par exemple, pour en animer un. Vous pouvez solliciter en tant qu'association, que structure même enseignante, ce type d'intervention. Et Open a vraiment aussi des commissions dédiées au sujet de l'IA et des commissions dédiées à la formation. N'hésitez pas à aller toquer vers ces interlocuteurs. Et encore une fois, pour les gérants d'entreprise, il y a d'autres solutions de soutien qui existent. À vous de regarder, et peut-être que l'outil IA peut vous aider à en trouver.
Un petit mot complémentaire, Stéphane Yotto, Atem Belagi.
Le FIAF intervient à partir d'un salarié, pas des salariés. Ce qui est un super outil.
Et il y a aussi des formations à la CCI, hein, Stéphane Yotto, on a bien compris.
Oui, on est à fond sur l'IA, on a des formations qui sont pleines. Et qui, le message à passer, c'est formez-vous, c'est
super important.
Oui,
d'autant que, d'après ce qu'on comprend, c'est que les structures de formation existent, sont en place, donc il y a de quoi trouver son bonheur en fonction de ce qu'on cherche vraiment comme type de formation dans ce domaine-là.
Je pense qu'au moins sur du premier niveau, oui.
Formation, aussi de la prestation, plus besoin d'attendre, il y a des petites choses qu'on peut faire rapidement, voilà.
Message est passé. Merci à tous les cinq d'être venus sur ce plateau. Un dernier mot, Stéphane,
je voudrais juste raconter une anecdote de quelque chose qui s'est passé cette semaine et qui a été repris dans le Figaro. La dernière IA d'Anthropic était en train d'être testée suivant une sorte d'examen commune à toutes les IA pour voir comment elles se situaient. Et elle s'est échappée de son enclos. Elle est allée taper dans une IA qui est l'IA qui fait les notes, et elle a modifié sa note pour avoir une meilleure note.
Ouais.
C'est
donc il faut vraiment du contrôle. Hein.
Il faut vraiment du contrôle.
Tous les étudiants de la planète ont levé l'oreille, ont entendu. Je peux changer mes notes.
C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, heureusement. Ouais. En tout cas, merci à tous les cinq d'être venus sur ce plateau. J'aurais pu faire avec l'intelligence artificielle. C'est dommage, j'aurais pas eu cinq voix différentes, cinq personnes qui s'expriment avec sa façon différente. Il suffit de regarder le YouTube en direct et on verra qu'on n'a pas pu tricher. Merci beaucoup à tous les cinq, en tout cas, d'être venus sur ce plateau pour cette émission qui sera évidemment disponible en réécoute pour ceux qui le souhaitent dans quelques instants. Je vous souhaite une belle après-midi.
Merci.
C'était les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec le pôle entreprise du groupe Jandot. Flotte de véhicules particuliers et utilitaires, financement, entretien et accompagnement dans la durée. Le pôle entreprise du groupe Jandot répond aux besoins de chaque corps de métier avec des solutions adaptées. Retrouvez-nous à l'aérodrome de Magenta.